Notre invité aujourd'hui, David Fritz Göttinger, il est photographe et il était dans le couloir du Bataclan le 13 novembre 2015. Il faisait partie des personnes qui étaient prises en otage. Bonjour David Fritz Göttinger.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Le 13 novembre, c'est bientôt. C'est un anniversaire triste pour vous.
Oui, triste, je sais pas, mais c'est vraiment un moment de communion avec les autres victimes et une occasion de retrouver mes comparses du couloir, en fait, qui sont devenus des amis. Et donc, on s'en sert vraiment comme un moment, ouais, de rassemblement et de mémoire, quoi.
Alors, vous êtes d'origine, on va en parler dans un instant, d'origine chilienne. Pourtant, votre nom, il n'est pas très chilien.
Ouais, c'est en fait, au Chili, on prend le nom de famille des deux parents. Donc, le nom complet de mon père, c'est Fritz Moreno.
Oui.
Et ma mère, c'est Göttinger Hernandez. Donc, les deux mélangés font Fritz Göttinger. Et on est issu d'une... Enfin, je crois que j'ai des ancêtres qui sont arrivés en Amérique latine en 1870, un truc comme ça. Voilà.
Un jour dans notre vie, c'est un récit édité chez Pygmalion. On va essayer de parler un peu de votre livre en prenant et en picorant quelques idées intéressantes. On va commencer par le début. Le début, c'est votre vie d'avant, d'avant le Bataclan. Vous avez une vie d'un adolescent somme toute normale.
Adolescent, je sais pas, jeune adulte peut-être.
Ouais, d'accord.
C'est vrai que je retrace un peu mon enfance et voilà, donc toutes les difficultés que j'ai pu avoir ou pas d'ailleurs, et les rencontres que j'ai pu faire, et en fait au final tout ce qui va me ramener à arriver au Bataclan le 13 novembre.
Alors, ce qui est intéressant, et on va y arriver, c'est qu'au départ, vous ne voulez pas aller au Bataclan. Vos amis vous ont un peu forcé la main. Et quand vous arrivez au Bataclan le soir, finalement, vous dites que ce n'était pas une mauvaise idée. En tout cas, pour le début de la soirée.
Bah, en fait, c'est vrai que j'étais assez fatigué à ce moment-là. J'avais un emploi de barman qui me prenait beaucoup de temps. Et j'étais fatigué. Donc, j'avais refusé plusieurs fois dans la semaine les invitations de mon pote Guillaume. Mais c'est vrai qu'arrivé dans la salle, voyant que c'était la fête, qu'on était vendredi soir, que c'était un bon moment, etc. Et je me suis dit, bon, bah voilà, on est là pour faire la fête, autant la faire. Donc c'est vrai que j'étais très heureux, finalement.
Alors, vous avez été donc dans cette salle du Bataclan, et on entend des coups de feu. Alors, au début, certains survivants disaient que c'était... ils pensaient que c'était dans le spectacle, que c'était un effet scénique. Vous, tout de suite, vous avez compris ce que c'était?
Bah, j'ai compris assez vite, de par mon expérience de joueur de jeux vidéo. Ça peut paraître étrange, mais c'est vrai que les jeux auxquels je jouais à l'époque étaient très réalistes. Donc les coups de feu dans ce cadre-là m'étonnaient pas. Et quand j'ai entendu ces sons qui viennent du rez-de-chaussée, j'ai assez vite compris, même s'il y a une part de mon esprit qui a refusé de comprendre et d'accepter. Je me suis tout de suite imaginé que c'était des coups de feu. Et puis après, j'ai eu la confirmation quelques instants plus tard, quand je commence à voir les gens qui sont morts et qui sont tirés dessus dans la fosse.
Alors vous êtes accroché à un couloir, on va dire à un balcon ou en tout cas à l'extérieur. Les terroristes vous trouvent, vous font entrer dans le couloir avec les autres otages. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit toutes les secondes, ça y est, c'est fini, ou on a encore cet esprit de survie?
Bah, ce qui fait tenir, en fait, réellement, c'est pas, c'est assez étrange, mais c'est les autres. Je pense à Stéphane, le monsieur qui était à côté de moi, qui est aujourd'hui un ami très cher, qui voilà, avec qui j'ai eu un échange, un contact physique. Je lui ai attrapé la main, je lui ai dit que ça allait aller, et en même temps, on se nourrissait les uns des autres avec de notre humanité. C'est je pense ce qui nous a fait tenir et ce qui aujourd'hui continue, en fait, c'est l'écho de l'humanité qu'on a eu l'humanité qu'on a eu ce jour-là fait écho aujourd'hui et continue de nourrir notre relation. Les uns avec les autres.
Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que toutes les personnes, en tout cas, une grande partie des personnes qui étaient dans le couloir, vous êtes devenus amis. C'est dû à cet événement, en fait.
C'est une manière de transformer un événement terrible dans quelque chose de beaucoup plus positif et de mettre des nouveaux souvenirs sur quelque chose d'horrible.
Alors, en plein prise d'otage, vous avez des pensées assez étonnantes. Vous dites dans le livre, par exemple, que pendant toute la soirée, vous êtes posé la question comment on allait vous libérer. en disant que la porte elle est fermée, derrière ça donne sur rien, monter les escaliers, et ça vous met un peu, on va dire, ça vous met dans un état encore plus détérioré que vous ne l'êtes.
Oui, c'est vrai que le terme détérioré est intéressant et c'est une espèce de cascade de déception, quoi. Au moment où je constate qu'on est dans un tout petit couloir, que la porte est fermée, qu'il y a des otages un peu partout, moi compris, je me dis clairement que la police n'aura pas la chance d'intervenir dans les meilleures conditions, quoi. Donc,
et là, vous pensez vraiment mourir?
Bah oui, clairement, ouais, la pensée de la mort est quelque chose d'absolu, hein. J'y pense du début de l'attentat à la fin des 2h30 de prise d'otage.
David Fries-Coppinger, Un jour d'entrevue aux éditions Flammarion.
Pygmalion.
Pardon ?
Pygmalion,
autant pour moi. Je voulais vous demander, quand vous sortez un tout petit peu du Bataclan, on a l'impression que vous redécouvrez une ville que vous connaissez, qui est Paris. On a l'impression que c'est une redécouverte. C'est une impression que vous confirmez ?
Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce d'impression d'être un peu un nouveau-né. C'est un peu bizarre, mais de revoir ces endroits où j'ai été, ressentir les odeurs que j'ai connues, c'est une manière de vivre à nouveau quelque part. Même si on sort d'un événement qui est très difficile à assimiler pour notre cerveau et pour nous-mêmes, j'ai vraiment cette impression en sortant du Bataclan de me dire « Putain, j'ai vécu ça et en même temps, là, j'ai la vie qui me tend les bras. » Donc c'est comme ça que je le vis.
Il y a souvent chez les rescapés cette idée de dire « Pourquoi moi j'y suis ? Pourquoi je suis encore vivant ?» alors que la personne qui était à côté de moi lors du concert est décédée. C'est aussi une pensée qui vous a traversé ?
Ouais, c'est vrai que cette pensée culpabilisante, c'est qui... En fait, elle s'applique à moi, malgré moi, hein, durant les 4 premières années, même encore aujourd'hui. Lorsque je vois qu'il y a des parents de victimes décédés qui ont perdu leurs enfants, qui, eux, ont eu la chance... Alors que moi, j'ai eu la chance de dire au revoir à mon père et de le revoir le lendemain, eux n'ont pas eu cette chance, justement, de revoir leurs enfants ou même des enfants qui n'ont pas pu revoir leurs parents. Donc, c'est vrai que je me pose la question, quoi. Je me dis, j'ai passé 2h30 avec les auteurs des attentats, enfin, une partie des auteurs de ces attentats-là, moi, je suis là, pourquoi pas eux, quoi. Donc, c'est une question qui est, je pense, irrésolvable. On peut pas répondre à ce questionnement-là. C'est pas possible. Il n'y a pas de sens. Et ce que j'ai vécu pendant 2h30, ça n'a pas de sens non plus. Il faut juste continuer à vivre et continuer à essayer de processer tout ça et à digérer du mieux qu'on peut.
On va en parler, c'est la deuxième partie de votre livre qui est d'ailleurs très intéressante. Moi, je me suis posé une question. Donc, le lendemain, vous rentrez chez vous, vous mangez, vous dormez. Est-ce que vous vous dites, quand vous rentrez chez vous, ça y est, c'est fini, je vais cauchemarder pendant 5 jours et je vais me remettre de la vie normale? On a l'impression qu'au début, vous pensiez vous en sortir, entre guillemets, tout seul.
C'est vrai que le lendemain, j'avais l'impression comme une espèce de bouffée d'air frais. Mais j'imagine que mon cerveau était en pause et que j'avais tellement absorbé de choses que j'étais dans une espèce de léthargie. Les souvenirs ont réellement commencé à revenir le dimanche, donc 15 novembre 2015, où là, je commence à faire des cauchemars, je commence à avoir mal un peu partout. Et voilà, quoi. Donc, finalement, reprendre le cours de sa vie d'avant, c'est complètement impossible. Et pour moi, continuer à vivre, c'était même pas une option, c'était un peu obligatoire. Et en même temps, je sentais que tout me ramenait à ce vendredi 13 novembre, quoi.
Alors finalement, vous décidez quand même d'aller voir des spécialistes, des psychologues. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez demandé, vous personnellement, d'aller rencontrer les gens du BRI. Ce sont la brigade qui vous a sauvé le soir de ce 13 novembre. C'est un besoin de reconnaissance. Ou pour vous, c'était important de voir qui c'est qui vous avez sauvé ?
C'est quoi, un peu des deux, quoi. C'est un peu des deux. Il y a un mélange de reconnaissance et de curiosité, non ? Qui sont ces gens derrière ces cagoules noires, ces casques, ces espèces d'armures. Et moi, je suis quelqu'un de très humain et qui a besoin aussi de rapports humains. Et c'est vrai que les rencontrer, c'était une manière aussi de déjà leur dire merci et ensuite de mettre un visage et des expressions derrière... des gens qui, ce soir-là, ont fait un job remarquable. Et Et voilà, donc une grande forme de reconnaissance. Ouais.
Alors, vous allez voir des psychologues qui vont vous parler, qui vont dire que vous avez un SSPT. Vous pouvez nous dire ce que c'est ?
Le stress post-traumatique. Voilà. Et, j'ai été, voilà, aujourd'hui, ça va un peu mieux à ce sujet, mais c'est vrai que voilà, il est toujours un peu latent.
Alors, avant d'arriver à cette idée, vous dites le seul moyen d'oublier, c'est d'aller faire un voyage. Et vous partez au Chili, votre pays natal. Et là, c'est un peu une catastrophe, non ?
Ouais, c'est vrai que ce retour à mes origines, il était à la base, je pense que c'était une bonne idée, mais en même temps, c'était une bonne idée dans une mauvaise. Ouais. Je me suis vraiment retrouvé tout seul face à mes peurs, face à mes souffrances, et finalement, c'est à 13 500 km de Paris que le Bataclan n'a jamais autant été là-bas que durant ces 5 dernières années. Quoi.
C'est là où
ça m'a vraiment rattrapé.
C'est là où vous dites que finalement, la famille, les amis, c'est une partie de la thérapie.
Oui, complètement. Ouais. Surtout que une fois que je suis au Chili et que je retrouve un peu ma sœur, ma mère, etc., je réussis un peu à garder la tête hors de l'eau, même si j'ai un peu de mal, j'avoue. C'est vrai que le cadre familial m'aide vraiment à tenir un peu à tenir la baraque. Quoi.
Alors, il y a une anecdote très, très intéressante lorsque vous êtes au Chili, donc vous voulez faire un road trip, mais ça se passe pas très bien. Vous retournez voir votre famille et il y a une fête de famille où il y a des ballons et les enfants de votre vos neveux cassent les ballons. Enfin, c'est des ballons de baudruche. Et là, vous entendez des bruits qui vous met très mal à l'aise. Ça veut dire que là, vous alliez très très mal.
En fait, c'est ce dont on parlait plus tôt, le syndrome de stress post-traumatique. Mmh. Il se caractérise par des flashs, des reviviscences. Et la reviviscence, c'est le fait de revivre les événements traumatiques. Et donc, c'est vrai que moi, quand j'entends mes neveux qui font exploser ces ballons de baudruche pour rigoler, parce que c'est des enfants, moi, je suis pris de flashs et donc de reviviscence, justement, de ce que j'ai vécu au Bataclan. Et j'ai beau être au Chili, très très loin de la salle de concert, en pleine journée au soleil avec mon père, ça ne change rien, je revis l'attentat.
C'est ça qui était très...
Et c'est justement ça qui était important pour moi de montrer et d'expliquer dans le livre.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Un jour dans notre vie, aux éditions Pygmalion. Évidemment, notre invité David Fritz Koppinger. On va revenir sur la suite, parce que finalement, dans votre livre, ce qui est très intéressant, en tout cas un peu plus que l'histoire que vous racontez au Bataclan, c'est votre combat vers le retour à la vie, qui a été très long finalement, non ?
Ouais, et aujourd'hui, il continue d'être en cours. Ce que je montre dans le livre et ce que je montre à lire, c'est la partie la plus vive en fait de ma reconstruction qui justement se termine à une date donnée, donc que je vais pas révéler, mais qui en fait cette date me permet de me raccrocher finalement au quotidien, à la vie quotidienne, et ça peut paraître assez banal, mais reprendre le cours d'une vie normale, c'est une montagne infranchissable. Donc ça a pris du temps et il reste encore du temps. En tout cas, je me laisse du temps justement pour voir tout ça, pour le digérer, pour continuer. Ça ne fait que 5 ans finalement.
Alors, dans votre reconstruction, il y a évidemment, on l'a dit, les professionnels, les psychologues. Il y a des rendez-vous réguliers avec vos amis que vous voulez revoir dans un cadre différent du Bataclan. Et puis, il y a aussi un événement qui me semble intéressant, c'est que du jour au lendemain, c'est une expression, mais vous voulez absolument devenir français, faire partie de la France. Ça, c'est une chose qui s'est passée après le Bataclan. On y pensait déjà avant.
En fait, j'ai jamais voulu être français avant.
Pourquoi ?
En tout cas, c'était pas une idée qui m'avait traversé l'esprit. Simplement parce que j'avais l'impression que la France n'avait pas grand-chose à me donner, dans le sens où j'avais l'habitude des préfectures d'Île-de-France qui sont terribles. Il faut faire la queue très longtemps à l'extérieur. J'ai passé des nuits entières. D'ailleurs, j'en parle dans le livre parce que je pense que c'est une chose qu'il faut dire. L'accueil des étrangers en Île-de-France, pour en ce qui me concerne, a été très très difficile. Et c'est vrai que je me contentais simplement de titre de séjour et j'avais pas envie de faire plus, quoi. J'étais un peu défaitiste à ce sujet et pour moi, devenir français, c'était tout simplement impossible. Mais pas impossible parce que je n'avais pas envie. Impossible parce que l'administration faisait que c'était impossible. Et donc c'est vrai que au moment où je sors du Bataclan et que j'ai cet échange avec un des deux terroristes qui me pose la question pour savoir d'où je viens, et que je lui dis que je viens du Chili, en sortant du Bataclan, je me dis, est-ce que je lui ai pas menti finalement ? Est-ce que je suis pas français ou juste tout simplement franco-chilien ? Et donc ça a commencé comme ça, et derrière une grosse remise en question identitaire. Voilà, j'ai fait l'école de la République. Bon, je suis arrivé en France, j'avais 4 ans, mais je pense que c'est important d'accepter ce bagage-là et cette culture-là qui est la France, en fait, et me rendre compte que le pays m'a toujours tendu les bras depuis que je suis arrivé ici, quoi.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est dans votre reconstruction, il y a des fois où vous tentez des choses, d'aller à un concert, de retravailler, et à chaque fois, ça se termine par des crises d'angoisse et des pleurs, des cris. Ça veut dire que vous vouliez reprendre votre vie normale, entre guillemets, très tôt. C'était un objectif, c'était ça qu'il fallait faire.
C'est vrai que, ouais, c'est, je suis assez d'accord. Comme je le dis dans le livre, j'avais tendance à brûler les étapes et essayer d'aller un peu vite, mais en même temps, dans ce moment difficile qui dure, enfin, les 2 ans après les attentats, dans mon cas, j'étais un peu un bambin à essayer de tâter un peu partout, goûter tout ce qui touche et tout ce qui passe et pour voir tout ce qui va en sortir. Donc je testais les choses. Donc malheureusement, à nombreuses reprises, ça n'a pas été un succès. Mais en même temps, derrière les enseignements que j'en ai tirés étaient à la hauteur de la souffrance que j'avais vécue. Et donc, ça m'a vraiment... Là, on peut parler de reconstruction, parce que je me suis rendu compte qu'en brûlant certaines étapes, j'avais compris ce que je pouvais en sortir. Et alors, ça a été utile dans ce sens-là.
Alors, il y a aussi une personne qui est très importante dans votre vie, c'est en l'occurrence votre épouse, Doris. Vous diriez que quand quelqu'un a une épreuve, il faut se reconstruire avec quelqu'un à côté de soi, une personne sur qui on peut se reposer?
Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Et pour revenir au sujet du psychotrauma et du traumatisme, on a tous des vies différentes, on a tous des identités différentes et des personnalités différentes. Le traumatisme va se greffer un peu sur tout ça et essayer de tout, ça mélange tout et ça crée une énorme cicatrice. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, j'avais besoin de quelqu'un, quoi. J'avais besoin de quelqu'un en plus de ma psychologue, quelqu'un qui m'accompagne réellement, quelqu'un qui me voit comme je suis, c'est-à-dire un homme en pleine reconstruction, et pas quelqu'un juste qui souffre, ou juste le mec qui était au Bataclan, ou juste un mec qui galère un peu. Et c'est vrai que mon épouse, dès le début, dès novembre 2015, m'a dit qu'elle sera là et que surtout elle me donnera la place. Et elle m'a dit une phrase très intéressante. Elle m'a dit on en parle quand tu veux. Mmh. Là où de toutes parts j'avais des gens qui me disaient, qui me posaient des questions et qui essayaient de m'aider, mais de manière assez indélicate.
Est-ce que aujourd'hui on peut vous demander comment ça va, ou c'est encore une phrase qui vous fait mal?
Non, aujourd'hui, j'ai tendance à dire que ça va. Après, ce que je dis souvent, c'est que là, en ce moment, ça va. Peut-être que dans 3 semaines, au moment des commémorations, ce sera tout autre chose. Ou dans 1 an, au moment du procès, ce sera encore autre chose. Je pense que la résilience, finalement, qui m'est propre, hein, je dis ça vraiment pour moi, ma reconstruction et tout ce que j'ai appris, m'a bien fait comprendre que les vagues du traumatisme, et je pense que c'est intéressant de le dire, c'est cyclique, c'est chronique. Ça revient et ça part, et ça revient de plus en plus fort et parfois de plus en plus doucement. C'est à moi aussi de voir à quel moment ça va et savoir m'écouter, peut-être aussi me tourner vers mon épouse si jamais ça va pas, ou mes amis proches, et essayer de traiter tout ça.
Ça veut dire que selon vous, oui, vous pensez que vous pouvez avoir une crise dans 5, 10 ans, 20 ans, c'est possible ?
Alors je sais pas, dans le sens où on a fait un travail très intéressant et très profond avec ma psychologue qui, je pense, va m'accompagner de longues années. Le Bataclan quittera jamais mes pensées, hein, quoi qu'il arrive.
C'est une cicatrice.
Je continuerai d'y penser, mais c'est vrai que j'y penserai plus de la même manière. Et le livre en est une grande preuve, c'est qu'il y a des passages de l'attentat que j'ai oublié et dont aujourd'hui je ne me souviens que grâce au livre.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui pourraient avoir un trauma comme ça ? Quel conseil vous pourriez leur donner ? Parce que finalement, vous vous en sortez plutôt pas mal. Vous êtes marié, vous essayez de reprendre une vie plus ou moins normale. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui subissent aussi un trauma ? Il y a un conseil à leur donner ?
Bah, assez étrangement, à l'époque, quand j'ai vu les premiers psychologues de la cellule de crise et tous les gens autour de moi, personne ne m'a dit quelque chose de constructif. Ah. À part une psychologue de la cellule de crise qui, j'espère, entendra cette interview, qui m'avait beaucoup touché et qui m'avait dit vous savez, vous êtes une pierre intaillée et un jour où ça ira mieux, vous serez une espèce de diamant. Et c'est vrai que ça peut paraître très cucu et très naïf de dire ça. Je pense que le trauma va déformer notre existence. Et malheureusement, c'est à nous, nous sommes les acteurs de la résolution de ce traumatisme-là. Ça peut paraître très présomptueux, mais dans mon cas, j'aurais jamais pu le faire sans rencontrer Sandrine, ma psychologue, ou avec la force de mon épouse, j'y serais jamais arrivé. Donc peut-être que ce serait ça la réponse, rencontrer des gens et laisser la place aux expériences.
Votre livre, c'est une thérapie ou c'est un témoignage ?
Ça a été, alors c'est assez marrant parce que beaucoup de gens en le lisant me disent ah mais c'est une énorme thérapie, etc. Moi je l'ai pas écrit comme ça.
Ouais.
Je l'ai écrit comme un journaliste donnerait à voir une scène de guerre interne.
D'accord. C'est quoi alors ? C'est un témoignage et c'est une tranche de vie que vous vouliez.
Ouais, c'est une tranche de vie, ouais. C'est vrai que c'est le bon terme.
Alors, David Fritz Coppinger, là, on va arriver, on l'a dit, aux commémorations. C'est un jour qui vous travaille, quand on arrive comme ça, au mois de novembre. Ça vous met dans un travail, notamment parce que vous allez avoir plein de journalistes qui vont vous interroger, vous allez avoir des photographes, il va y avoir les commémorations, les cérémonies. Est-ce que c'est un jour qui vous angoisse ?
C'est pas un jour qui m'angoisse. 5 ans après, je connais un peu la musique, donc je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Ce qui est vraiment, alors qui pour moi est un peu difficile, et c'est plus l'univers graphique autour, c'est-à-dire les émissions qui parlent de ça, et pas forcément des choses constructives, de revoir certaines victimes, certains parents de victimes où cette culpabilité revient, et c'est extrêmement personnel, hein, ce que je dis. Mais c'est pas de l'angoisse, c'est une espèce de, comme vous le dites, c'est du travail mental, quoi. Je suis en sursollicitation mentale, j'essaie de tenir un peu la barque à flot et j'essaie de fonctionner, quoi.
Dans le livre, vous expliquez également que vous avez discuté entre vos amis de savoir s'il fallait être là aux cérémonies. Finalement, vous y assistez. Cette année, vous y serez ?
Ouais, j'y serai, d'autant que j'ai reçu hier l'invitation et j'irai avec grand plaisir, même si je peux, ça peut paraître terrible, mais j'irai avec grand plaisir parce que pour moi, c'est un moment extrêmement important de l'année.
Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons ? Vous avez retrouvé un travail, vous êtes toujours marié, tout va bien ?
Je suis toujours marié, tout va bien. aujourd'hui, c'est vrai que je me concentre énormément sur donc la promotion du livre,
ouais.
Parce que c'est quand même très important pour moi que ce livre arrive à atteindre sa cible, et j'y donne vraiment toute mon énergie. Mmh. À côté de ça, j'ai signé avec une boîte de production pour faire un documentaire sur le 13 novembre, et en particulier l'attentat du Bataclan.
D'accord.
Et donc je suis en train de faire ça en même temps, donc ça sortira sur RMC Story le 9 novembre.
D'accord.
Donc je pense que ce sera pas le documentaire de l'année, mais en tout cas pas peut-être pas le meilleur, j'en sais rien, je suis très humble à ce sujet, mais
RMC Story le 9 novembre, alors.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Vous habitez toujours Paris ou vous êtes déménagé?
Oui, toujours.
D'accord.
Toujours Paris.
Voilà. Passerez notre bonjour à Doris. Avec qui on a passé toute la partie où j'ai lu le livre. David Fritz Kopfinger, Un jour dans notre vie, c'est un récit aux éditions Pygmalion. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde.
Merci beaucoup.
Plein de joie, plein de bonheur pour vous. Et puis, on espère que ce livre marchera. Et puis, on se dit peut-être à très bientôt. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Au revoir.